yourself.
Au sommaire du radioblog de cette semaine, Jean-François Lisée rêve d'un parti souverainiste arc-en-ciel. Vous savez, le genre d'arc-en-ciel rouge, rose, mauve, magenta, écarlate, voire même peut-être un peu saumon. Les 50 ans du métro de Montréal, de plus en plus coûteux et de moins en moins efficaces. On parlera également du populisme, les mythes puis les réalités, ainsi que quelques brèves, si jamais on a du temps. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce 16e numéro du radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce 16e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. J'aimerais commencer par faire une petite parenthèse. J'aimerais saluer les nouveaux auditeurs du Radioblog. Je trouve que je ne le fais pas assez. En fait, je ne l'ai pas fait du tout en 15 épisodes. J'aimerais donc vous saluer, ou vous, nouvel auditeur du Radioblog. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que ça va vous plaire. Et je vais vous faire une petite présentation rapide du radioblog de Québec Presse. Ça se veut un podcast simple, mais pas simpliste. Ça parle de politique, ça parle de débats de société, ça parle d'actualité, ça parle de politique internationale. Oui, ça parle de politique. Oui, avec un grand P, en tout cas, j'ose l'espérer. Ça me fait d'ailleurs penser à un courriel que j'avais reçu il y a quelques mois de ça. Oh, j'y ai répondu, mais... Pour l'anecdote, je vais vous en parler. Podcast très gentil, rien de désagréable là-dedans. C'était même sympathique. J'aime bien ton podcast, mais tu parles tellement de politique. Comment dire ? C'est un podcast politique. Je m'en cache pas, c'est un podcast d'opinion. D'ailleurs, vous devez être quelques-uns à savoir, à connaître mes opinions. Le but du podcast n'est pas de vous convaincre, mais de vous faire réfléchir. Si j'arrive à vous convaincre, ben, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier est de faire avancer le débat. Et puis le débat, c'est parfois avec des idées qui sont contradictoires. Et d'ailleurs, il y a des auditeurs qui m'écrivent de temps en temps ou qui laissent un commentaire en disant « je suis pas d'accord ou je ne partage pas toutes tes idées, mais je trouve ça intéressant. » C'est exactement l'objectif. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Encore une fois, bienvenue. Puis, je ne le dirai jamais assez, mais vous pouvez donner vos commentaires, faire vos suggestions de sujets ou faire vos remarques sur les sujets ou ce que je peux dire dans les podcasts. Je vous donnerai les façons de me contacter un peu plus tard. Du moment que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème. Vous pouvez dire que vous êtes en total désaccord, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, ben ça c'était la petite parenthèse pour commencer ce 16e épisode. Et puis on embarque tout de suite dans l'actualité. La semaine dernière, je vous en avais un peu parlé déjà de l'élection de Jean-François Lisée à la tête du Parti québécois. Je le rappelle, je radote même, mais il s'agit quand même du 6e chef du Parti québécois en 15 ans. Et là, je ne parle pas des chefs, j'ajoute pas les chefs intérimaires qui ont suivi des démissions. Je parle vraiment d'élection à la chefferie, c'est le 6e chef. Donc c'est l'élu. Encore une fois, l'élu, on attend de lui beaucoup de choses. Et on a déjà eu l'occasion de l'entendre s'exprimer sur différents sujets. Et ce qui a été intéressant de cette semaine et la semaine dernière, ça a été de le voir s'exprimer sur les élections partielles, les futures élections partielles de Verdun, où là, M. Lisée tape du pied pour, enfin, fait des appels du pied vers Québec solidaire et l'option nationale. Ce qui est intéressant de voir, ce qui est très intéressant, mais en même temps pas très surprenant, c'est de voir que Jean-François Lisée s'adresse à Québec solidaire, parti d'extrême gauche, et l'option nationale, qui est un parti de gauche, souverainisme et de gauche. Pas d'appel du pied envers les électeurs de la CAQ, par exemple, ou même d'une union, d'appeler une candidature pour faire barrage au Parti libéral. Parce que le premier argument de Jean-François Lisée, c'est de se dire, c'est incroyable qu'à Verdun, que la circonscription de Verdun reste aux mains du Parti libéral, et puis regardez les sondages que le Parti québécois a effectué, cela montre que, quelle que soit la configuration, le Parti libéral va l'emporter tant que nous ne sommes pas unis. Et de dire, donc, si un candidat indépendant qui représente Québec solidaire, l'option nationale et le Parti québécois, on a des chances. Ben, on a des chances. En fait, les sondages montrent qu'un candidat indépendant serait quand même en arrière du Parti libéral, mais effectivement, serait quand même pas mal plus proche. Ça reste des sondages, il faut se méfier des sondages. Mais quand même, le point est là. Par contre, rien, encore une fois, vers la CAQ. On l'a vu également lorsqu'il a fait son discours suite à sa victoire. C'était un discours de gauche, ouvertement de gauche. Il commençait d'ailleurs ses appels du pied vers Québec solidaire. Et comme je le disais en introduction, lors de la présentation du sommaire, le Parti québécois, qui était un parti souverainiste arc-en-ciel, comme le voulait René Lévesque, c'est-à-dire qui rassemblait des souverainistes de droite comme de gauche, du centre, et puis des gens qui ne sont pas forcément politisés, mais souverainistes, ressemble de plus en plus à quelque chose, à un parti monochrome. Il est d'ailleurs, on peut le dire, depuis... ça avait commencé avec Bernard Landry, ça s'est vraiment accéléré avec Pauline Marois, et puis maintenant on voit que ça se concrétise de plus en plus... C'est devenu totalement un parti monochrome. Le Parti québécois est un parti ouvertement de gauche. Ils ont le droit, hein, soyons clairs, ils ont le droit, mais il faut qu'ils soient aussi honnêtes avec eux, qu'ils ne se prétendent plus être un parti souverainiste d'union, mais un parti souverainiste de gauche, comme l'est d'ailleurs Québec solidaire en passant. Ce qui est amusant, c'est de voir que Québec solidaire refuse cette candidature commune dans Verdun. Option nationale, d'ailleurs, j'ai lu rapidement que eux non plus n'étaient pas vraiment intéressés par la proposition de Jean-François Lisée. Mais en même temps, qui s'intéresse à Option nationale à part Radio-Canada? Il n'y a pas grand monde. Ce qui est intéressant, en plus, là, c'est que le discours de Lisée, si vous ne me croyez pas par rapport au discours de gauche de Lisée, c'est les thèmes abordés. Jean-François Lisée, pour essayer d'amadouer Québec solidaire, disait que dans un gouvernement, que ce soit minoritaire ou majoritaire du Parti québécois, il défendrait le plancher de 15 $ de l'heure, c'est-à-dire le salaire minimal à 15 $ de l'heure. Je rappelle, le salaire minimal de 15 $ de l'heure est une proposition qui est défendue par les partis d'extrême gauche. Même les partis plus modérés en Amérique du Nord ou les groupes les plus modérés de gauche ou de centre-gauche ne vont pas dans cette direction. On s'imagine pas la pression salariale sur surtout les petites et moyennes entreprises que d'augmenter à 15 $ le salaire minimal. Les autres salaires, ceux qui gagnent déjà 15 $, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? On va devoir les augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Le prix des produits va augmenter, N'imaginez pas que vous allez avoir un salaire augmenté de 5$, mais qu'il y aura zéro répercussion nulle part. Ça va se retrouver sur le prix du produit, ce même produit que vous allez acheter donc plus cher. Et qu'est-ce que ça va produire dans le fond ? Ça va produire que, au final, l'augmentation du salaire minimal n'aura pas fait grand-chose sur, n'aura pas produit l'effet escompté sur votre pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat qui est important. C'est pas le salaire. Dans les faits, vous pourriez être payé 10$ de l'heure, mais avoir un très bon pouvoir d'achat. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est sûr. Mais l'essentiel, c'est de créer de la richesse. C'est pas d'augmenter de façon artificielle le salaire comme ça, en signant une loi ou un décret ou un règlement. C'est ridicule. C'est pas comme ça que ça marche, l'économie. Et je le répète, même les gens de gauche modérés savent très bien que c'est pas la solution. C'est complètement démagogique. Et le fait que Jean-François Lisée défende le salaire minimal à 15$ de l'heure prouve qu'il va dans une direction qui est vraiment très à gauche. Il promet également à Québec solidaire de défendre un scrutin proportionnel. Bonjour le bordel, excusez le terme, mais un scrutin proportionnel, c'est pour ressembler, si c'est pour faire ressembler le Québec à l'Italie, par exemple, qui change de gouvernement au 15 jours, je vois pas trop l'intérêt. C'est correct qu'il y ait une meilleure représentation du peuple. Mais encore une fois, défendre la proportionnelle, c'est quoi ? C'est donner un cadeau à Québec solidaire qui n'est présent que sur l'île de Montréal. On en reparlera d'ailleurs tantôt par rapport au populisme. Il y a des choses intéressantes à distinguer. Mais Québec solidaire, sorti de l'île de Montréal, c'est zéro plus zéro. Et vous voulez donner un pouvoir supplémentaire à un parti qui, dans le fond, oui, il est peut-être sous-représenté par rapport au pourcentage qu'il fait, mais géographiquement parlant, il est quand même bien représenté à l'Assemblée nationale. Pourquoi donner plus de députés à Québec solidaire alors que les gens du reste du Québec, donc hormis l'île de Montréal, ne veulent rien savoir de Québec solidaire. Ils arrivent troisième, quatrième, parfois même cinquième dans les élections législatives. Donc, faut arrêter le délire. Mais ça va servir Jean-François Lisée, parce que le Parti québécois sur l'île de Montréal c'est quand même affaibli ces dernières années. D'élection en élection, ça s'affaiblit. Et le Parti québécois, idéalement, aimerait ça, récupérer une circonscription comme Verdun. Entre parenthèses, aimerait aussi récupérer la circonscription de Mercier, ravir la circonscription de Mercier à Amir Kadir. On ne sait pas si Amir Kadir se représentera d'ailleurs aux prochaines élections, mais pour l'instant, il n'y a rien qui indique que ce ne sera pas le cas. Ça fait plusieurs élections que j'entends parler qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se démène pour contrer Amir Kadir dans Mercier. Les gens du Parti québécois font tout pour le faire trébucher. C'est peut-être aussi une des raisons qui fait que Québec solidaire veut rien savoir de la proposition de Jean-François Lisée. Mais vous voyez, ce parti se gauchise de plus en plus, prend une mauvaise trajectoire. Et si le but, c'est de rassembler plus de monde pour gagner les prochaines élections législatives, c'est mal parti. En politique, il faut savoir une chose. Les voix ne s'additionnent jamais. Parce que le calcul politique de Jean-François Lisée, pourtant qui est quelqu'un d'intelligent, n'est pas le bon. Lui, il s'imagine que 30%, mettons... Je schématise, là. Ne m'écrivez pas pour dire « Non, mais le Parti québécois, c'est plus 35% ou 32% selon les sondages. » Je schématise. 30% plus 10% ne font jamais 40% en politique. Ça n'arrive jamais. Idéalement, oui, il faut se rapprocher, arriver à se rapprocher de ce 40%, mais c'est toujours entre les deux. Ça peut être une déconfiture totale, puis finalement, vous vous retrouvez avec une alliance de partis politiques, puis un 32%, ou vous pouvez réussir cette union de circonstances ou cette union durable et, dépasser les 35, arriver à 36, 37%. Là, c'est très bon, c'est une réussite totale. Mais lorsque on veut additionner les voix, vous avez toujours des mécontents, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Des électeurs du Parti québécois qui voudront rien savoir d'alliance avec Québec solidaire, par exemple, et il y en a. À l'inverse, des électeurs de Québec solidaire qui voudront rien savoir d'une alliance avec le Parti québécois, et puis, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils iront vers l'abstention, ou iront voter pour un candidat dissident, un indépendant, qu'importe, ou le candidat marxiste-léniniste du coin qui fera son 0,0002%. Donc, le calcul de l'ISEE est un calcul dangereux, est un calcul simpliste. C'est le calcul facile de se dire que Québec solidaire est le parti le plus important, le parti souverainiste le plus important, hormis le Parti québécois, et donc ça serait pour lui la meilleure façon, la façon la plus simple, c'est de ramener l'électorat de Québec solidaire vers le Parti québécois. Le problème, c'est que Québec solidaire commence à être un parti qui a tout de même quelques années, un électorat très fidèle, un électorat très, très solide qui... généralement, c'est d'ailleurs le cas de tous les partis plus extrémistes, hein, que ce soit à gauche ou à droite, l'électorat est souvent ne fait bloc derrière leur l'organisation. Donc, ils accepteraient mal, ils verraient une alliance avec le Parti québécois, même pour certains d'entre eux, en tout cas comme une trahison. S'ils sont à Québec solidaire, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à reprocher au Parti québécois. Puis le passage de Pierre-Carl Péladeau pendant quelques mois à la tête du Parti québécois n'a fait que confirmer ce que les électeurs et les militants de Québec solidaire pensent du Parti québécois. Même si dans les faits, vous le savez, entre vous et moi, Pierre-Carl Péladeau était pour plus de droite que moi, je suis communiste. Le Parti québécois est un parti de gauche, est devenu un parti de gauche. Pourquoi d'ailleurs ne s'appellerait-il pas Parti socialiste du Québec ? C'est ce qu'il est devenu. Il y a encore peut-être deux, trois irréductibles de centre-droit ou de droite qui restent encore au Parti québécois, mais à un moment donné, soit eux disparaîtront naturellement, soit ils seront finalement écœurés et puis n'iront même plus voter.
Vous voulez réagir? Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions? N'hésitez pas à m'adresser vos courriels à l'adresse suivante podcast@commercialquebecpresse.com.
Autre sujet, on va parler transport collectif. On entend pas mal parler dans les médias, c'est les 50 ans du métro de Montréal. Et puis, vu que votre serviteur utilise beaucoup les transports en commun, je me permets un peu d'en parler et de donner un peu mon avis. Il y a aussi un article qui est paru à l'Institut économique de Montréal. Les méchants de la droite économique. Qui parlait des noces d'or du métro de Montréal, mais sont sortis avec des chiffres qui sont publics, qui ne sont pas des inventions. Puis comme je n'ai pas eu l'impression qu'on a beaucoup parlé de ça à Radio-Canada ou ailleurs, je vais en faire mention. L'article de l'IEDM s'appelle « Noces d'or du métro de Montréal, c'est le temps de divorcer d'un vieux modèle ». Et donc, on parle du 50e anniversaire du métro. Et je cite « Depuis le lancement du système du métro montréalais en 1966, les coûts totaux par kilomètre parcouru de la Société publique de transport de Montréal, ajustés pour l'inflation, ont grimpé de 163%. Cette hausse des coûts n'a pas été accompagnée d'une amélioration de la fiabilité du service. De 1983 à 2015, les retards majeurs signalés dans le service du métro sont passés de 6,3 par million de kilomètres parcourus à 12,2, c'est-à-dire ont doublé. Donc, ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher, et en plus de ça, les retards majeurs, on ne parle pas des petits retards pour une porte qui a été bloquée dans le métro, mais les retards majeurs ont été doublés. Puis c'est une réalité. On sait que ça a été une des demandes d'ailleurs de la STM, hein, les nouveaux métros Azur fabriqués par Bombardier qui doivent être déployés, ben, qui ont commencé à être déployés sur la ligne Orange et puis qui vont continuer comme ça progressivement en fonction des livraisons à être déployées, c'est aussi pour contrer les pannes qui sont de plus en plus régulières du métro. Il m'est arrivé assez souvent de devoir attendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, voire même des blocages à durée indéterminée du métro, sans savoir vraiment pourquoi. Il y a plusieurs articles, il y a plusieurs reportages qui ont été faits sur le sujet, et pas des reportages de l'Institut économique de Montréal, mais des reportages dans les médias qui parlent d'un système électrique vétuste, complètement dépassé, des problèmes de fonctionnement même du métro en tant que tel. Je sais qu'il y a eu une modernisation du réseau électrique, en particulier dans le métro de Montréal, mais ça ne suffit pas. Nous sommes en 2016 et il y a un métro qui coûte très cher aux contribuables et qui ne fonctionne pas comme il devrait. D'ailleurs, on en parle. Toujours dans l'article de l'IEDM, une phrase de Vincent Gelozo, qui est donc de l'Institut économique et qui, je le cite, nous dit « Les contribuables montréalais et québécois versent à la STM 659 millions de dollars par année. Mais ce n'est pas tout. La STM reçoit aussi une autre somme de 744 millions de dollars de subventions aux fins de son budget d'investissement. Les contribuables sont en droit d'exiger des élus qu'ils fassent preuve d'ouverture face aux modèles implantés dans d'autres pays qui ont connu du succès. » Et d'ailleurs, c'est l'objet de l'article de l'IEDM, c'est de dire que, dans le fond, le service public de transport ne devrait pas être un sujet tabou, dans le sens que un service de transport dans une ville ne devrait pas juste être public. Il y a aussi d'autres avenues, il y a d'autres pays qui ont essayé d'autres modèles. D'ailleurs, toujours dans l'article, ailleurs dans le monde, de nombreux gouvernements ont soit privatisé leur système de transport, soit délégué des pans de leur activité à des entreprises privées. À Londres, de telles réformes ont fait baisser de 28% le coût d'exploitation par véhicule kilomètre entre 1985, 1986 et 2008-2009. Aux États-Unis, la privatisation complète a réduit jusqu'à 70% les coûts d'exploitation par kilomètre dans certaines agences de transport. Évidemment, il y a aussi des contre-exemples. Évidemment, il y a toujours faire parler des chiffres d'un sens comme d'un autre, c'est toujours il faut toujours se méfier. Hein. On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, mais pourquoi ne pas avoir un débat et pourquoi ne pas réfléchir à l'opportunité d'essayer d'autres modèles. Le problème, c'est que on a l'impression, et puis c'est pas juste dans le transport, c'est aussi valable dans l'énergie avec Hydro-Québec, c'est aussi valable dans la distribution de l'alcool comme la SAQ. On a un modèle qui a été implanté jadis, peut-être à une époque où c'était un bon modèle, où c'était la bonne façon de faire ou que ça correspondait à un contexte économique, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, mais peut-être. Sauf que le monde évolue. Le monde, il ne reste pas figé en 1960. Le monde progresse et puis il y a différentes façons de voir les choses. En 1960, par exemple, il n'y avait pas Internet. La possibilité, par exemple, de commander une caisse de bouteilles de vin par Internet, ça n'existait pas. Le fait, l'Internet également, nous a permis d'avoir la possibilité de comparer. C'est bien meilleur pour le consommateur. Par exemple, vous voulez changer de laveuse. Qu'est-ce que vous faites? Premier réflexe. Google, vous regardez Brouet Martineau, vous regardez Léon, vous regardez qu'importe, les différentes grandes enseignes, Bric, voilà, je cherchais. Vous regardez les différentes grandes enseignes, puis vous comparez les laveuses. Vous regardez d'abord c'est quoi vos besoins, puis vous regardez ensuite les prix. C'est ça qui est intéressant. Et Internet permet ça. Vous n'avez plus besoin de vous balader de boutique en boutique, de vous balader avec le pamphlet sous la main et puis annoter, OK, alors telle boutique, il me le fait à 500$, et puis l'autre, il me le fait à 650$, mais en même temps, j'ai, je ne sais pas, moi, la sécheuse en plus, qu'importe. Internet vous permet ça. Mais le problème, c'est que ce soit avec la SAQ ou d'autres produits, enfin d'autres services, vu que c'est un monopole, ben, vous pouvez bien avoir Internet puis avoir un téléphone intelligent sur vous, ça ne changera rien au prix du transport. Vous n'avez pas le choix. Ajoutons à ça, il y a les monopoles publics, mais il y a aussi des monopoles corporatistes. On a souvent parlé à ce micro du taxi versus Uber versus d'autres services de covoiturage. C'est exactement la même chose. Le prix, on y a pensé pour vous, figurez-vous. Mais il n'est vraiment pas intéressant. Les consommateurs restent floués. Et c'est ce qui se passe avec la STM qui coûte très cher, mais dont le service est de moins en moins bon. Croyez-moi, je vous le dis encore une fois, je suis un utilisateur des transports en commun et je le constate assez régulièrement. Une autre... je voulais vous parler d'un autre article, cette fois-ci un article d'Adrien Pouliot, oui, encore un infâme individu de droite. Lui, il parle justement d'Uber. Mais sous un angle pas mal différent de la façon dont on a déjà parlé d'Uber. Lui, il parle d'Uber qui arrive en aide à des municipalités qui veulent arrêter de dépenser pour rien pour des transports en commun, des transports collectifs qui coûtent vraiment très cher. Par exemple, il parle, je cite Adrien Pouliot, « La révolution a commencé à Altamonte Springs, près d'Orlando, en Floride. Cette ville de 42 000 habitants, donc c'est une petite ville qui se compare en population à Victoriaville ou à Rouyn-Noranda, le directeur général de la ville avait rêvé pendant deux décennies de moderniser le système de transport collectif de sa ville en implantant un logiciel permettant aux usagers de commander du transport collectif sur demande. » Tiens, ça fait penser un peu à Uber, quelque part. Son rêve s'est évanoui récemment avec le retrait du financement de l'agence de transport régionale. Il a donc, finalement, il a passé un coup de fil à Uber et lui a proposé de lancer un projet pilote dans sa ville, donc à Altamonte Springs, pour remplacer le système de transport collectif en place. Il offrit de subventionner 20% du coût de chaque course et 25% dans le cas d'une course partant ou arrivant à la station de train de banlieue. Coût anticipé, $100,000, beaucoup moins que ce qui pourrait être requis pour exploiter un système de transport collectif. Donc, Frank Martz, qui est donc le directeur général de la ville de Altamonte Springs, préfère payer $100,000 pour avoir un partenariat avec Uber, donc subventionner une partie des déplacements, plutôt que le subventionner à pratiquement 100%, ça lui coûte moins cher. Et pour une petite ville de 42 000 habitants, comme cette ville de Floride, c'est intéressant. L'effet fut alors immédiat. Je cite encore l'article. L'achalandage des voitures Uber a décuplé dans les semaines suivant le lancement du nouveau service TPR, TPR pour transport personnalisé et rapide. Pour l'utilisateur, une course de 3 km coûte 4 $, soit 2 $ de plus que le système d'autobus local. Mais le parcours prend une fraction du temps. 4 autres villes des environs ont elles aussi lancé des projets pilotes. Dans le même état, on parle des Uber qui a remplacé le service d'autobus, subventionné à hauteur de 3 $ la course, par course. On prévoit un budget de 40 000 $, alors que les deux circuits coûtaient 120 000 $ annuellement. C'est énorme quand même. On parle de 80 000 $ par année économisés par la ville. Une petite ville de même, 80 000 $, c'est énorme sur un budget. Puis vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut faire avec 80 000 $. Refaire certaines routes, investir dans certaines infrastructures, investir dans des écoles, etc. etc. Alors, il y a plusieurs idées. Je vous mettrai d'ailleurs en lien l'article d'Adrien Pouliot, parce que c'est très intéressant. Et ça montre que, dans le fond, on pourrait, à la place de faire la guerre à des systèmes comme Uber, on pourrait aider Uber et en faire un service. Parce que, et Adrien Pouliot en parle, combien de fois on voit tard le soir, des bus vides ou avec une ou deux personnes dans le bus. Que ça soit à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, c'est la même affaire. Il y a certains moments de la journée où les bus sont vides ou pratiquement vides, et à d'autres moments de la journée où ils sont bondés à en être désagréables. Et lui, Adrien Pouliot, il dit « Moi, j'ai une compagnie de transport, et j'ai une vague idée de à combien ça peut coûter, ça. Lui, il dit qu'il ne serait pas surpris que le coût de faire rouler un autobus de STM dépasse 100 $ de l'heure. Vous comptez évidemment le salaire du conducteur, mais le coût du véhicule, du carburant, de l'entretien, etc., de l'amortissement également du véhicule. Les bus, ça coûte très cher à l'unité. Et donc, quand vous voyez qu'il y a des lignes de bus qui sont pratiquement complètement vides, complètement désertes, pourquoi ne pas favoriser, surtout en commençant par ces moments de la journée qui sont moins achalandés, pourquoi ne pas favoriser des transports comme Uber ? Plutôt que d'attendre, surtout que rendu à, mettons, à 22h, 22h30, 23h, des bus, il n'y en a plus beaucoup, donc vous êtes forcé d'attendre parfois 3/4 d'heure, 1 heure, parce que vous venez de rater le bus. Plutôt que d'attendre, puis on le sait, hein, les hivers sont assez froids, donc imaginez un peu le disons, oui, je choisis volontairement le schéma le pire, mais quand même, on a quelques mois d'hiver au Québec, c'est des choses qui peuvent arriver et qui me sont arrivées personnellement, et je sais que tous les utilisateurs des transports en commun ont au moins vécu ça, vivent ça de temps en temps. Vous attendez, il fait froid. Vous n'êtes pas sûr si le bus est déjà passé ou pas, parce que, évidemment, à Montréal, il n'y a pas de puce GPS sur les bus, pas encore, comme par exemple les bus de Laval. Donc, impossible de regarder sur l'application si vous l'avez vraiment manqué. Ou parfois, les bus sont de l'avance, donc vous arrivez à l'heure, mais manque de bol, le manque de chance, le bus est déjà passé, donc vous attendez 3/4 d'heure le suivant. Au lieu de ça, on pourrait prendre un Uber qui, mettons, à partir de 21h, serait subventionné à hauteur, je ne sais pas, moi, de 5 $, par exemple, qui pourrait suffire à beaucoup de personnes qui, par exemple, finissent de travailler et n'ont pas d'argent pour se payer une voiture, par exemple, un véhicule, pourraient regagner ou en tout cas se rapprocher de leur domicile sans avoir à attendre inutilement, parce que il faut pas oublier une affaire, c'est que attendre un bus, c'est de l'argent perdu. Soit vous allez peut-être être en retard pour aller au travail, soit dans le fond, vous n'avez plus de temps, moins de temps pour vous occuper de vos enfants ou simplement profiter de la vie. Donc, aider un moyen de transport, puis je parle d'Uber, ça pourrait être aussi un autre système, il en existe d'autres, hein. C'est aussi aider les gens, et puis pas forcément des hauts revenus, hein. Soyons clairs là-dessus. Des gens qui ont les moyens, s'ils n'ont pas de voiture, ils se prennent un taxi sans problème, ça leur fera pas mal. Par contre, les gens qui prennent les transports en commun, généralement, pas tout le temps, mais généralement, ce sont des gens qui sont qui cracheraient pas, par exemple, sur une petite aide pour pouvoir rentrer chez eux rapidement. Pour revenir à la STM, je ne dis pas qu'il faut supprimer la STM ou supprimer le RTC. Ce que je demande, c'est qu'on ouvre la discussion, que l'on étudie d'abord ce qui se passe à l'étranger. Il y a peut-être de très bonnes idées ailleurs. On n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas un modèle. J'entends parfois parler du modèle québécois, mais dans mon livre à moi, un modèle, c'est quand il est copié ailleurs. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire « Ah, le modèle québécois, on va s'en inspirer, on va le copier ». Non. Non, généralement, c'est plus nous autres qui parlons, par exemple, du modèle scandinave, de façon d'ailleurs assez biaisée de temps en temps, mais le modèle québécois n'existe pas. Donc, raison de plus pour être ouvert à ce qui se passe ailleurs, à regarder les solutions. Peut-être que la privatisation totale n'est peut-être pas la meilleure des solutions, d'ailleurs. Il faut encore une fois rester ouvert, mais essayer de trouver des alternatives pour économiser de l'argent, mais aussi économiser tout en étant encore plus pratique pour le consommateur. Et ce que je reproche beaucoup, que ça soit aux taxis, mais aussi aux monopoles publics comme les transports, comme la distribution d'alcool, c'est qu'on est beaucoup plus intéressé par ce que pensent les syndicats et les corporations plutôt que de se mettre à la place du consommateur, celui qui utilise le service, et voir c'est quoi son intérêt. Et l'intérêt d'un consommateur, quand on parle de transport en commun, c'est de se rendre le plus vite possible à sa destination, puis que ça coûte le moins cher possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher, mais je parle du titre de passage, mais pas seulement, parce qu'on donne de plus en plus d'argent de nos impôts dans les transports collectifs, que ce soit à Montréal, à Québec et ailleurs, mais qu'on n'en a pas pour notre argent. J'en ai parlé tantôt, les métros tombent en panne, sont vieillots. Oui, il y a des nouvelles, voitures qui s'en viennent, mais tout ne va pas être remplacé. Il faut arrêter de rêver. Là. Demain matin, vous n'allez pas vous réveiller avec des métros azur partout, sur les quatre lignes. Ça ne marche pas de même. Il y en a qui aiment parler d'ouverture. C'est le temps d'être ouvert. Et puis, être ouvert à d'autres façons de voir. Et puis, ça commence par penser différemment. Je vais vous parler maintenant d'un sujet de fond. Là. Je vais essayer de paraître intelligent. Je vais vous parler du populisme. Il y a deux choses qui m'ont donné l'idée de parler du populisme. C'est d'abord l'élection présidentielle américaine, mais aussi un article de l'excellent Christian Rioux qui a écrit dans Le Devoir, un article, je vous mettrai un lien d'ailleurs vers cet article, je pourrais le lire in extenso, là, puis ça serait tellement c'est intéressant, qui est intitulé « Le populisme ou la tarte à la crème ». Et d'ailleurs, il va pas mal dans le sens de mon opinion, dans le fond, dans le sens de mon idée. C'est qu'avec le débat présidentiel Trump-Clinton, Donald Trump est devenu l'insulte à la mode. On a vu, par exemple, il y a quelques semaines, même mois de ça, je pense que c'était au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin, qu'importe. On a entendu quelqu'un, je ne me souviens plus qui, mais à la limite, tant mieux pour cette personne, insulter le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, de Donald Trump du Québec. Il y en a un autre qui a comparé François Legault. François Legault. Hey, come on, François Legault. Tu sais, un gars qui est bien sympathique, mais il est tiède. Mais il est comparé François Legault à Trump. Je vous dis, c'est devenu l'insulte à la mode, un peu comme est devenu le qualificatif de populiste. On balance populiste à tout va. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans le fond, on reproche beaucoup aux hommes politiques leur langue de bois, c'est-à-dire qu'ils ne disent jamais ce qu'ils pensent réellement, ils font très attention à ce qu'ils disent, ils font très attention aux mots qu'ils emploient, ils ne veulent pas froisser. Ça, c'est venu avec ce que je considère comme étant une maladie qui s'appelle le marketing politique. Alors, le marketing politique est apparu, selon les pays, c'est à différents moments, mais on va dire, on a commencé à voir du marketing politique dans les années 60-70, au moment où on a commencé à voir apparaître la télévision dans le débat politique, mais ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 80 et puis surtout 90, 2000 et encore aujourd'hui. Où là, donc, le marketing politique, ça consiste en quoi? Ça consiste à payer très cher des conseillers d'image, des conseillers qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, qui ne savent même pas exactement de quoi ça parle, mais qui ont un avis sur tout et surtout un avis sur les mots à employer, sur les thèmes, sur la couleur de la cravate. Tu sais, la couleur de la cravate. Alors, mettez une cravate bleu marin, ça va plaire à la catégorie qu'on veut rechercher des femmes de 65 ans et plus, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça qui empoisonne le monde politique depuis maintenant des décennies, c'est qu'on a essayé d'uniformiser le débat, de mettre tout le monde à peu près au même niveau, d'avoir un vocabulaire unique. Parce que vous regardiez des gens considérés de droite ou de gauche, libéral, péquiste, fédéraliste, nationaliste, les mots qu'ils emploient sont les mêmes. Les thèmes sont les mêmes. La façon d'amener le débat, c'est fait à peu près de la même façon. Il n'y a pas de grande différence. Oui, vous allez trouver des différences. C'est sûr qu'entre un péquiste qui va vouloir parler de pays à toutes les deux phrases et un libéral qui parlera plus de fédéralisme renouvelé, c'est sûr que les choses sont différentes. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est là qu'on voit la vérité, c'est-à-dire ce qu'ils défendent vraiment. La différence, économiquement parlant, elle n'est pas grande. Le Parti libéral n'a rien privatisé du tout à date. Le Parti québécois ne le fera jamais. C'est quoi on parle, je sais bien, le thème à la mode aussi au Québec, c'est parler d'austérité. Mais austérité, elle est où l'austérité? La taille du gouvernement n'a jamais été aussi grosse qu'aujourd'hui. Les dépenses, puis c'est pour moi qu'il dit, faites une recherche sur Google, si vous ne me croyez pas, les dépenses reliées aux dépenses de l'État n'ont jamais cessé d'augmenter. L'austérité, en fait, ce qu'on appelle austérité, c'est peut-être un léger fléchissement dans la progression des dépenses publiques. Les dépenses publiques augmentent encore, peut-être à un rythme un peu moins gros, un peu moins important que les années précédentes. C'est ça l'austérité? Come on! C'est pas ça l'austérité. L'austérité, c'est ce qui a connu le Canada dans les pires années de dépression et de déficit budgétaire, où des gens comme Jean Chrétien d'ailleurs, pour ne pas le nommer, ont sabré un tiers à peu près, qu'importe, mais ont sabré chez les fonctionnaires, ont coupé des postes, mais de façon drastique. Chose qui a été faite également dans une moindre mesure par un certain René Lévesque. L'austérité, elle n'existe pas. Alors, évacuons ces mots qui ne veulent rien dire. La façon dont le débat politique est mené, que ce soit un parti ou un autre, ça se ressemble. Après, on s'étonne que les Québécois, mais pas seulement les Québécois, les Canadiens, les Nord-Américains, les Européens, vont de moins en moins voter. Parce qu'ils se disent, un parti ou un autre, c'est le même. Combien de fois on entend ça? On se dit, on rapproche ça de la discussion de comptoir, de ce qu'on entend dans un Tim Hortons. Mais c'est ça, pareil. Les gens, c'est ce qu'ils pensent. En admettant même deux secondes, chose que je ne crois pas, que les partis politiques sont vraiment radicalement différents, la perception, c'est ça qui est important, et la perception chez les électeurs, elle est très mauvaise. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, que ce soit le PQ ou les libéraux, c'est pareil. Que ce soit les libéraux fédéraux ou les conservateurs, c'est pareil. Et les gens vont de moins en moins voter, parce qu'ils les entendent dans les débats des chefs. Puis c'est pratiquement le même langage. Alors vous allez me dire, oui, mais quelqu'un comme Justin Trudeau, justement, que tu critiques souvent, ben, il amène quelque chose de nouveau. Oui, mais c'est vrai, mais je voudrais, c'est du fond, c'est pas de la forme. La forme, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais de voir quelqu'un avec un grand sourire, puis avec des beaux cheveux, c'est pas ce que je demande d'un premier ministre. C'est un premier ministre, je veux qu'il agisse. Un premier ministre, je veux qu'il gouverne. Je veux qu'il essaye d'améliorer la situation. Je veux que, dans le fond, quand je vois mon premier ministre, j'ai vraiment l'impression qu'il ait les choses en main, qu'il tient fermement les rênes et qu'il dit, voilà, moi, je veux aller dans cette direction. Moi, la direction que veut emprunter Justin Trudeau, elle n'est pas claire. Il parle d'une certaine direction, mais oups, le lendemain, c'est une autre. Ou en tout cas, comme on dit, les bottines ne suivent pas nécessairement les babines. À l'inverse, quand on a des gens qui, justement, vont à l'encontre de la langue de bois, du discours organisé, préformaté par les conseillers en communication, oh, ben, ça ne va pas non plus. Là, on sort le terme de populiste. Par exemple, j'en ai parlé tantôt, Gaëtan Barrette, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit, oh oui, qui doit dire à peu près ce qu'il pense. Disons que, je ne sais pas s'il a des conseillers en communication, mais en tout cas, il ne doit pas les écouter. Ben. Gaëtan Barrette, il a son franc-parler, mais régulièrement, il est considéré comme... On dit de lui que c'est un populiste. Je ne veux pas parler de Donald Trump. Donald Trump, c'est le candidat anti-système. Alors, c'est sûr que là, encore, c'est ça le problème. C'est ça qui est fondamental, d'ailleurs, dans cette discussion. C'est qu'à force d'avoir un discours, une politique qui est contrôlée par les conseillers en communication, on a un discours qui se ressemble, qui est un discours qui finit par être terne parce que tout le monde a peur de déraper, de sortir un mot qui ne va pas plaire. Alors, chaque terme, chaque phrase, chaque mot est pesé, repesé. Puis vous avez des gens qui sont en arrière d'un pupitre et puis qui sont fades, qui sont beiges. Et évidemment, ça provoque aussi... Il y a toujours un effet de balancier, hein. Quand ça va trop loin d'un bord, eh bien, à un moment donné, ça finit par, comme un boomerang, là, ça finit par nous revenir dans la face. Et Donald Trump, c'est le retour du boomerang. C'est exactement ça. À force d'entendre des gens qui sont des gens qui n'ont jamais vraiment eu un vrai travail. Tu sais, si on parle des États-Unis, un Barack Obama, une Hillary Clinton... on peut parler également, on peut prendre n'importe quel exemple. Ce sont des gens qui ont toujours fait de la politique. Barack Obama est devenu sénateur de l'Illinois. Hillary Clinton, a toujours fait plus ou moins de la politique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais elle a fait 2-3 affaires dans des associations, des ONG, travaille dans des ONG. Ce n'est pas un vrai travail. Moi, quand je parle de vrai travail, c'est des gens qui vont se lever à 6 heures le matin, qui vont aller pointer à l'usine, par exemple, puis qui vont finir tard, et puis qui font partie de la classe moyenne, qui ont travaillé fort pour arriver là où ils sont arrivés, et puis qui se décident de se lancer dans la politique. Mais ces gens-là, ils n'ont pas le temps de faire de la politique. C'est ça le problème. Par contre, quelqu'un qui a toujours été dans le système, qui était un fonctionnaire, qui est devenu haut fonctionnaire, qui est devenu peut-être même haut placé dans un ministère, et puis qui finalement se décide à se mettre en congé et à se lancer en politique, ça, il y en a. Le système entretient le système. Alors, encore une fois, contrebalancier, vous avez un Donald Trump qui... on passe donc d'un extrême à l'autre, où c'est quelqu'un qui a fait fortune, qui a travaillé quand même si ça pourrait être toujours des grandes réussites. Oui, je suis d'accord, je ne suis pas en train de défendre Donald Trump, bien au contraire, mais ça va dans le n'importe quoi. Il dit vraiment ce qu'il pense. D'ailleurs, si on parle de populisme dans le cas de Donald Trump, si on parle de franc-parler, tant mieux, parce qu'on sait exactement ce qu'il pense vraiment, puisqu'il n'y a aucun filtre. Donald Trump, il y a zéro filtre. Lui, là, à l'inverse, ça doit être un véritable cauchemar pour ses conseillers en communication, si tant est qu'il en est. J'imagine que oui, en tout cas. Je ne peux pas croire que le Parti républicain ne lui ait pas imposé, d'ailleurs, 2-3 conseillers pour au moins l'écriture de ses discours, et puis au moins essayer de lui dire « Bon, ben regarde... ok, soit tu vas garder ta mèche de cheveux de cette façon-là, mais au moins, est-ce que tu pourrais éviter d'employer certains vocabulaires, certains mots, certains sujets ?» Et d'ailleurs, récemment, dans un discours, c'était à peu près ça. Il disait « Mes conseillers m'ont dit de... Mon, dans le fond, mes conseillers m'ont déconseillé d'évoquer... certains sujets comme les allégations d'harcèlement sexuel dont il a fait l'objet ces derniers jours. Donc on m'a déconseillé de le faire, d'évoquer le sujet, mais je vais en parler quand même. Ça, c'est du Trump tout craché. Je vous le dis, un cauchemar de communication. Mais en même temps, mettons de côté les scandales, puis le côté un peu répugnant du personnage. Mettons ça de côté. Essayons d'être ouverts. Essayons d'être objectifs, de mettre de côté nos opinions. On peut comprendre pourquoi un tel personnage plaît à un certain électorat. Il ne faut pas se tromper. Il est quand même arrivé à gagner la primaire du Parti républicain, qui est quand même le bon vieux parti, comme disent nos voisins du Sud, c'est pas pour rien. Il n'est pas arrivé. Oui, son argent, sa fortune a aidé, c'est certain. Mais il n'y a pas que ça. Son côté... Tu sais, des fois, même si on a du mal à l'avouer, on a toujours une certaine... attirance, ou en tout cas, on a un certain respect par rapport aux gens qui vont contre vents et marées, puis qui secouent le système. Le système a besoin d'être modernisé. Vous n'êtes pas d'accord ? Quand je vous dis que les hommes politiques, les femmes politiques ont toujours le même genre de discours, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Le problème, c'est que on apporte encore une fois les mauvaises solutions, les mauvaises réponses à ça. Et ces réponses, c'est des Donald Trump. Ou si on va du côté européen, des mouvements extrémistes, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et pourquoi ça plaît autant ? Pourquoi ces partis-là, ces organisations-là, ont d'élection en élection progressent dans les élections ? C'est parce que les gens, même s'ils ne sont pas d'accord nécessairement avec toutes les idées des partis extrémistes se disent « Je ne suis pas d'accord avec eux autres, mais bon Dieu, ça prend un ménage. » Ça prend un ménage, ça prend, tu sais, comme on dit, un coup de pied dans la fourmilière ou essayer de secouer le cocotier. Tu sais, de se dire, ça prend un électrochoc. L'Occident, les démocraties occidentales sont en train de s'endormir. On arrive à élire des gens fades qui, finalement, une fois qu'ils sont au pouvoir, ne font pas grand-chose. Tu sais, il y a quelques années, il a envoyé Barack Obama plus grand que nature. Ça allait, c'était la nouvelle révolution. C'était yes we can, yes we can. Tout le monde avait juste ça en bouche. Souvenez-vous, les gens sur Facebook changeaient leurs photos pour que ça ressemble à l'affiche Hope de Barack Obama. Tu sais, bleu, rouge, blanc. Tu sais, c'était devenu une icône. Force est de constater qu'aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce qu'a fait Barack Obama? Sweet fuck all. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Il n'a rien fait. Il y a eu quelques... Évidemment, il y a quand même eu quelques mesures, comme l'Obamacare, par exemple, qui est, entre parenthèses, très critiqué. Il voulait fermer Guantanamo, la prison de Guantanamo... Aux dernières nouvelles, c'est encore ouvert et il a quand même été réélu. Donc, il a eu 8 ans pour faire ça. Qu'est-ce qui a changé? Ce gars-là, ça faisait 15 jours qu'il était président des États-Unis. Il gagnait le prix Nobel de la paix. Il n'y a jamais eu autant d'attaques de drones à l'étranger, de drones américains. Sur le Pakistan, sur l'Irak, sur l'Afghanistan. Plutôt que d'envoyer des hommes au sol, il a choisi une guerre à distance qui a tué énormément de civils. Et d'ailleurs, c'est en partie, c'est pas la seule raison, mais c'est en partie à cause de cela que, dans le fond, ça a incité beaucoup d'extrémistes à rejoindre les rangs de l'État islamique. 8 ans après, le slogan qu'on pourrait donner à Barack Obama, c'est « No, we can't ». C'est ça le résultat de 8 ans de présidence fade. Ah oui, beau sourire. Non, c'est sûr, gars photogénique, lui et Michel... beau petit couple, mais c'est de l'image. C'est exactement comme Justin Trudeau. Tu sais, Justin Trudeau avec Sophie Grégoire, Barack Obama avec Michel, c'est des images. C'est des belles affiches, des belles photos, des belles couvertures de magazines. Mais quand on parlait de révolution, au moment de la campagne électorale de Barack Obama, par exemple, mais aussi de celle de Justin Trudeau, un nouvel espoir, un nouveau Canada. Le Canada est de retour, qui disait. Pourvu de grosses révolutions à date. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler il y a une semaine ou deux. Les résultats de 1 an de Justin Trudeau, ça frise le zéro absolu. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est ça le gros problème. Soit les personnalités politiques se ressemblent tous, ont la langue de bois, soit c'est devenu des populistes parce qu'ils parlent comme nous autres. Le populisme est un terme complètement galvaudé. Ça veut dire quoi, populisme? Écouter le peuple? Ben, j'espère bien qu'un quelqu'un pour qui on donne notre voix va nous écouter. Quitte à être un peu démagogique de temps en temps, il n'y a pas de surprise, ça reste de la politique. Qu'il soit fade ou populiste, ils feront toujours des promesses qu'ils ne tiendront pas. Mais je préfère quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui sort un peu du système, qui n'a pas peur de perdre, qui n'a pas peur de perdre, parce que c'est ça le problème. Quand vous avez un homme politique qui fait carrière en politique, lui, il veut garder son siège à l'Assemblée nationale. Il veut être réélu au prochain coup. Donc, il faut plaire. Il faut plaire à tout le monde. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne marche pas de même. On peut essayer de rassembler. On peut essayer de rassembler, de donner une direction. Puis même de convaincre des gens qui ne sont pas de vos idées, mais qui disent « Oui, je ne suis pas d'accord avec lui, mais au moins son message est clair, puis on sait où on s'en va. » Puis après, ça sera à nous de l'influencer pour arrondir les angles, si vous voyez ce que je veux dire. Un homme politique doit être au service du peuple. Alors si ça passe par le méchant populisme, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vous parlais donc de l'article de Christian Rioux. Il y a un paragraphe que j'aimerais citer, entre autres. Je cite donc Christian Rioux. Où le populisme contemporain est-il d'abord apparu, sinon dans les médias ? On est justifié de parler d'un véritable populisme médiatique. La télévision de papa était peut-être un peu terne, mais on y interviewait des écrivains et des hommes politiques aux heures de grande écoute, sans les forcer à se déguiser en clown. Aujourd'hui, un dirigeant politique n'a guère de choix d'aller faire le pitre dans des émissions comme Tout le monde en parle, quand ce ne sont pas les humoristes eux-mêmes qui envahissent les rares émissions d'information, encore un tantinet sérieuse. Les journalistes ont beau jeu de dénoncer le populisme, alors que le système médiatique contribue à sa propagation en récompensant souvent le dénigrement de la politique et la petite phrase provocante. La télévision publique, qui a liquidé toute idée de service public, porte à cet égard une lourde responsabilité. La dégradation de la langue qu'on y constate n'est que le symptôme d'un mal profond. C'est ça le problème. Là, quand tu es politique, il faut, par exemple, passer à Tout le monde en parle. Une émission de divertissement. Arrêtez de comparer Tout le monde en parle à une émission d'affaires publiques. C'est pas vrai. La meilleure illustration, il n'y a pas très longtemps, lorsque, j'ai oublié son nom, mais qu'importe, cette dame est passée à Tout le monde en parle pour dénigrer les traitements contre le cancer. Puis, il n'y avait personne en face pour la contredire. Aucun spécialiste. Ce n'est pas une émission d'affaires publiques, ça. Une émission d'affaires publiques sérieuse, ça serait d'avoir un débat contradictoire. Quelqu'un qui, il a peut-être ses idées sur la radiothérapie ou la chimiothérapie, qu'importe, mais en face, vous avez des spécialistes dans le domaine qui peuvent contre-argumenter. Quelqu'un qui vient, la folie, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde pratiquement plus Tout le monde en parle, c'est que vous avez un discours également préformaté où, dans le fond, il faut être artiste, puis venir dire « Ah, 15 $ de l'heure, ça va aider les pauvres. » Puis là, gros applaudissement. C'est important de parler du réchauffement climatique. Un gros applaudissement. Alors que ces gens-là, il ne faut pas l'oublier, ne subissent pas la domination du politique. Je m'explique. Et d'ailleurs, je pense que je vais citer... En fait, Michel Onfray, qui est un philosophe de gauche et qui est cité par Christian Rioux, qui dit que le peuple, c'est ceux sur qui s'exerce le pouvoir. En clair, le peuple, c'est celui qui va subir, par exemple, les augmentations d'impôts, qui va subir la taxation, qui va subir les lois, les règlements. C'est jamais ceux qui sont journalistes, hommes politiques, qui sont dans des positions de domination. Guy Lepage, là. Si demain matin le salaire minimum passe à 15 $, est-ce que vous pensez sérieusement que ça va influencer la vie de Guy Lepage. Nous autres, membres de la classe moyenne, on va subir l'augmentation des prix parce qu'il faudra payer ces salaires. Il faudra payer également les salaires qui étaient déjà avant l'augmentation supérieurs au taux plancher. Donc, on va le payer à la fin. Mais des Guy Lepage, des Jean-François Lisée, des Amir Kadir, ces gens-là n'auront pas à payer, n'auront pas à subir le contre-coup de leurs idées. C'est ça qui est terrible. Je continue parce que c'est ce qu'il dit est très intéressant. Surtout, en particulier, le paragraphe, ce paragraphe-là. Toujours l'article de Christian Rioux. L'autre cause majeure de la montée du populisme doit être cherchée dans la crise de la gauche. On oublie que les couches populaires furent traditionnellement représentées par des partis de gauche, en Europe du moins. Or, il y a longtemps que ces partis se sont gentrifiés à l'image de certains quartiers de nos centres-villes. Aujourd'hui, les électeurs du Front de gauche en France, ceux de Die Linke, excusez-moi la prononciation en Allemagne de l'Ouest, ou de Québec solidaire au Québec, se recrutent généralement dans des beaux quartiers, quand ce n'est pas dans la petite bourgeoisie. Ces partis ont migré vers des clientèles ciblées, entre parenthèses communautés ethniques, minorités sexuelles, fonctionnaires, dont ils ont adopté les préoccupations. C'est pas pour rien que Québec solidaire fonctionne bien sur le plateau. Le plateau est un quartier bourgeois. C'est la petite bourgeoisie artistique, médiatique, la petite bourgeoisie. Et ces petits bourgeois, qu'est-ce qui est important pour eux? Que l'air soit moins pollué, qu'on s'occupe du réchauffement climatique, qu'on favorise la culture, en subventionnant la culture, que l'État, c'est important. Comparativement aux gens, aux vrais peuples, comme on dit au vrai monde. Le vrai monde, lui, il veut pouvoir profiter un peu de la vie, pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat, ne pas devoir calculer à la fin du mois combien il lui reste, combien il doit payer en taxes. Le vrai monde est intéressé par le prix du carburant. Et se dit pas que la voiture, c'est nécessairement mal. Le vrai monde a des enfants à conduire à la garderie ou à l'école. Ils ne peuvent pas faire ça en transport en commun. Le vrai monde se sent brimé quand il voit que les sens de circulation sont régulièrement changés sur le plateau Mont-Royal. Le vrai monde, c'est ça. Québec solidaire, la gauche en général, ne parle plus à ces gens-là. Si Québec solidaire parlait vraiment au monde, il ferait des meilleurs scores hors le plateau, hors l'île de Montréal. Ça ne serait pas un parti montréalais, un parti embourgeoisé. Et je continue. Donc le paragraphe de Christian Rioux, quand il ne juge pas les milieux populaires racistes et réactionnaires et ne se contente pas de leur faire la morale, notamment sur le plan des mœurs, une grande partie des électeurs du Front National est composée d'anciens électeurs du Parti communiste ou qui en ont le profil. Comme l'a démontré le géographe Christophe Guilly en France, les milieux les plus déshérités, souvent repoussés à la marge des grandes villes, sont devenus des orphelins politiques. Ils s'abstiennent généralement aux élections, au lieu d'être encartés dans des partis, des syndicats, une église. Ils sont dorénavant livrés au marché et aux premiers démagogues venus. À force de prendre de haut le petit peuple, voilà ce qu'est devenu la gauche. C'est devenu un parti qui prend de haut le petit peuple et qui, dans le fond, ne répond même plus à leurs attentes. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ce petit peuple va se rebeller. Et parfois, ce n'est pas forcément, encore une fois, les bonnes options qui sont suivies. Et on pourrait très bien voir l'arrivée d'un Donald Trump au Québec qui va plaire à ce petit peuple brimé et orphelin politique. Le 16e épisode du Radioblog de Québec Presse touche à sa fin et comme à chaque fois, je vous invite très fortement à me contacter, à me donner vos commentaires, à vous faire part de vos suggestions également, les adresses. Bon, le plus simple dans le fond, ça reste encore la page Facebook de Québec Presse. Vous pouvez me laisser un message privé et je vous répondrai dès que possible. En général, ça ne me prend pas trop de temps pour vous répondre. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, d'autres sujets et sans doute encore beaucoup trop de politique. J'ai pas eu le temps de vous parler d'autres choses. J'ai des sujets, des sujets un peu plus légers que j'ai notés il y a v'là des semaines et j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Mais promis, je vais essayer de trouver une place prochainement. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis comme toujours, on se laisse en musique. Cette fois, un bon vieux rock, c'est du AC/DC, Highway to Hell. J'avais le goût d'écouter du rock aujourd'hui. Fait que voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao.